Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'ExpatLang Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la musique antillaise. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez certainement à quel point j'aime les Antilles. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane me font rêver et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ces lieux paradisiaques si éloignés de l'Europe. La France, ce n'est pas seulement le territoire européen que vous avez certainement déjà visité avec ses plages, ses montagnes, sa gastronomie et ses jolis villages fleuris. Aux quatre coins du monde, il y a aussi de nombreux territoires possédant de riches patrimoines ancestraux, une diversité de langues locales et des traditions vivantes et en constante évolution. Dans l'océan Pacifique, on trouve un chapelet d'îles qui donne un petit aperçu du paradis sur Terre, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Dans l'océan Indien, deux perles naturelles, l'île volcanique de la Réunion et l'archipel de Mayotte. Dans l'Atlantique Nord, il y a l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, niché au large des côtes de Terre-Neuve et Labrador, au Canada. Enfin, délicatement posée au cœur de l'océan Atlantique, se trouve la Guyane française, qui a le Suriname et le Brésil pour frontières, ainsi que les îles des Caraïbes, les archipels de la Guadeloupe et de la Martinique. La Martinique, c'est justement là que nous allons faire escale aujourd'hui. Nous allons y retrouver Cyril, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 7 de ce podcast, dans lequel il nous a raconté le déroulement du spectaculaire carnaval qui se déroule dans la capitale martiniquaise, Fort-de-France. Mais aujourd'hui, il va nous parler de musique. Cyril est né et a grandi en Martinique, et même si aujourd'hui il vit à des milliers de kilomètres de sa terre natale, il n'a jamais oublié la culture de laquelle il vient. Que ce soit au niveau des traditions ou des dernières nouveautés, Cyril est un véritable puits de science en ce qui concerne son île. Pour Cyril, la musique est une affaire sérieuse. Comme il le dit lui-même, aux Antilles, on a la musique dans le sang. Chaque île a ses propres artistes qui font danser les populations de la Caraïbe. Mais la musique n'est pas seulement une question de fête. Elle reflète la longue histoire, parfois tragique, des populations locales, mais aussi leur quotidien ou leurs croyances et légendes. Si vous ne connaissez pas encore la richesse musicale des Antilles, dans l'épisode d'aujourd'hui, grâce à Cyril et à l'épisode d'aujourd'hui, vous allez bientôt tous devenir des spécialistes. Vous y découvrirez les différents styles musicaux qu'on y écoute, ainsi que le contexte culturel dans lequel elles s'inscrivent. Cet épisode n'est que le premier d'une série de deux, et dans le prochain, nous continuerons notre aventure dans les styles musicaux des Caraïbes. Et si vous êtes curieux d'écouter ces différents styles musicaux, vous trouverez un lien en description de cet épisode vers une liste Spotify avec toute une diversité de chansons parmi les plus populaires des Antilles. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Cyril, depuis que je suis arrivé en Martinique, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'à la radio, il y a principalement de la musique locale.
Tout à fait.
C'est vrai ça ?
Oui, ouais. Effectivement. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que les artistes locaux ont un petit peu une difficulté à s'exporter hors de la Martinique. Et la musique caribéenne, afro-caribéenne, est une musique vraiment très riche, musicalement parlant, parce qu'on a des influences des États-Unis, Amérique latine et des autres petites îles autour de la Martinique, cubaine, etc. Ça, c'est vraiment un mix très intéressant à écouter. C'est vraiment dommage que ça ne s'exporte pas hors de la Martinique. Donc, c'est aussi pour ça que les radios localement essaient de faire l'effort de passer la musique locale.
Quand tu dis que ça ne s'exporte pas, c'est-à-dire que même dans les autres îles de la Caraïbe, on n'entend pas cette musique-là? Par exemple, en Guadeloupe, on n'écoute pas de musique martiniquaise?
Si, en Guadeloupe, on écoute de la musique martiniquaise, mais il y a aussi les musiques guadeloupéennes, bien évidemment, qui sont passées à la radio guadeloupéenne. Mais ça reste toujours dans le cercle dans le cercle caribéen, antillais, et ça, c'est très difficile, ça s'exporte très difficilement.
Mmh. Je suis très étonné que ça ne s'exporte pas, parce que c'est quand même une musique d'une qualité supérieure. Enfin, ce n'est pas juste un petit artiste local, il y a vraiment un style bien défini, avec des instruments, des orchestres, et des gens qui jouent la musique de manière vraiment très avancée. Ce n'est pas n'importe quoi comme musique.
Oui, effectivement, bon. Après, il y a les plus connus jusqu'à maintenant, je pense que c'est Kassav.
Mm-hmm. Ils sont vraiment mondialement connus, tu penses?
Ah oui, mondialement connus, parce que c'est eux qui ont créé le zoo, qui ont fait des concerts en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, enfin, aux États-Unis, au Canada, partout. Mais le problème, c'est que vraiment, l'Antillais, il est stigmatisé par le zouk. Donc, tout le monde pense que l'Antillais ou le Martiniquais guadeloupéen, il sait faire que du zouk, alors que c'est pas vrai. Donc, on sait faire du compas. Je parle pas seulement de la Martinique, mais vraiment les Antillais. Dans la Caraïbe, il y a du compas, il y a de la salsa aussi, il y a de la bachata, il y a du bel air, les musiques très locales, et vraiment qui mêlent beaucoup de tambours, de chants.
La soca aussi.
La soca, bien évidemment, très important. Et ce genre de musique s'exporte pas assez à mon goût. Parce que, je sais pas, c'est parce que les radios ne voudront pas passer ce genre de musique hors Martinique, en métropole, etc., de peur de se confronter au public européen, de peur de se confronter aux artistes aussi internationaux qui font vraiment un type de musique vraiment très généraliste, R&B, pop, etc., qui plaît déjà à un public vraiment très aguerri, donc c'est aussi pour ça, je pense que ça s'exporte pas malheureusement assez.
Pour ceux qui connaissent pas tous ces styles de musique, est-ce que tu pourrais essayer de les décrire rapidement? Tu as parlé du compas par exemple, qu'est-ce que c'est comme, comment on pourrait décrire le compas?
Alors le compas, c'est déjà une musique qui est très dansante et qui mêle beaucoup de d'instruments.
D'accord.
Ça c'est très important. Nous on écoute beaucoup la musique, on aime bien danser et on porte une attention particulière aux instruments.
Le compas, si je me trompe pas, c'est une musique qui est assez répétitive. Enfin, ça invite presque à la transe, non?
Ouais. C'est très répétitif effectivement. Mais ce qui est bien dans le compas, c'est que c'est très répétitif, mais tu vois aussi des solos. Des solos qui montrent à quel point l'artiste sait jouer d'un instrument. Et ça, je ne sais pas si tu sais, mais c'est originaire d'Haïti.
Haïti.
Exactement. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique. Par exemple, il y a des morceaux qui racontent les cyclones, comment Haïti a été ravagé par les cyclones. Par la pauvreté, par la politique,
la corruption,
etc. Donc quand tu écoutes vraiment les paroles, il ne parle qu'en créole, c'est très important, et il raconte vraiment l'histoire d'Haïti. Et c'est pas seulement, il n'invite pas forcément seulement à danser, mais aussi à écouter comment ils vivent, comment ils ont grandi, comment Haïti a évolué, etc.
Le créole d'Haïti est compréhensible pour les Martiniquais quand on écoute de la musique?
Oui, il est compréhensible, mais il est quand même très différent. On ne comprend pas à 100%, mais
l'idée générale, en tout cas, elle est accessible.
On la comprend, exactement.
Ok, ok.
Exactement. Je pense que tu as pu remarquer depuis que tu étais ici qu'on aime beaucoup le tambour, le tibois, la percussion, etc. Et le compas, c'est vraiment une musique qui peut durer 10 minutes, un morceau de compas. Donc c'est vraiment quelque chose où les artistes s'expriment.
C'est fait pour danser.
C'est fait pour danser et s'exprimer. Et tu as vraiment des solos de batterie, de piano et de guitare vraiment dans les morceaux de compas qui peuvent durer. Donc du coup, 10 minutes quoi.
J'ai une théorie pour laquelle les morceaux de compas durent aussi longtemps. Tu vas me dire si c'est correct ou pas.
Vas-y.
C'est que quand on est dans une fête en Martinique, il y a presque des défis de danse. Il y a un cercle de personnes et on dit « Allez, maintenant c'est à ton tour de danser ». Alors il y a quelqu'un qui fait un truc spectaculaire au milieu. Est-ce que c'est pour ça que les morceaux de compas sont assez longs?
Peut-être qu'historiquement parlant aussi, mais c'est aussi surtout qu'on a ça dans le sang, qu'on aime beaucoup danser et que c'est vraiment dommage d'avoir un morceau qu'on aime particulièrement avec autant de musicalité qui ne dure que 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30.
C'est pas assez.
Il faut danser, il faut tenir son cavalier, sa cavalière et lui montrer qu'on sait danser, qu'on sait bouger ses hanches.
D'accord. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, il faut savoir bouger les hanches.
Ça c'est très important. Et surtout fermer les yeux, suivre la musique parce que la musique, chez nous, ça rencontre notre histoire parce qu'on a beaucoup de passé culturellement parlant. On a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à exprimer qu'on ne peut pas forcément exprimer à travers la radio, la télé, etc. Et souvent, les chanteurs, c'est comme ça qu'ils expriment ce qu'ils ressentent à travers les instruments et à travers les chants. C'est vraiment une culture musico-chorégraphique. Parce que comme le ballet, ça mélange chant, tambour, instruments et conte aussi.
Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. et j'aimerais en profiter pour vous faire écouter un message que j'ai reçu d'Arushi qui habite en Inde.
Bonsoir Jean-Baptiste, je m'appelle Arushi et je voudrais juste dire que votre podcast est très 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 intéressant et très utile pour moi. En fait, j'habite en Inde et c'est pourquoi Missouri n'est pas très insolite pour moi, c'est près de chez moi. Mais oui, j'ai compris pourquoi c'était insolite pour vous et votre ami Marie. Juste un autre petit commentaire. J'aime bien comment vous expliquez des phrases et le vocabulaire après chaque podcast. Donc, à partir de maintenant, je vais écouter plusieurs podcasts que vous avez faits. Et je vous souhaite bon courage et bon courage pour des autres podcasts que vous allez faire maintenant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Arushi, pour ton message. Je suis vraiment heureux que le podcast te plaise et j'espère que tu auras autant de plaisir à écouter les prochains épisodes. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, un petit point de culture. Dans cette première partie, je vais vous donner quelques explications complémentaires sur un point de cette conversation avec Cyril. Écoutez tout d'abord cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
Après, il y a les plus connus jusqu'à maintenant, je pense que c'est Kassav.
Mm-hmm. Ils sont mondialement connus, tu penses?
Ah oui, mondialement connus parce que c'est eux qui ont créé le zoo, qui ils ont fait des concerts en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, enfin, aux États-Unis, au Canada, partout. Mais le problème, c'est que vraiment, l'Antillais, il est stigmatisé par le zouk. Donc tout le monde pense que l'Antillais ou le Martiniquais guadeloupéen, il sait faire que du zouk, alors que c'est pas vrai.
Dans cet extrait, Cyril parle du groupe de musique Kassav. Parler de musique antillaise sans parler du groupe Kassav équivaudrait à commettre un crime. Voilà pourquoi je souhaite prendre quelques minutes pour vous raconter rapidement l'histoire de ce groupe hors du commun. Depuis de nombreuses années, les îles françaises des Antilles ont été à l'origine de bon nombre de musiques aussi riches que variées. Chaque génération de musiciens, en s'inspirant de différentes traditions rythmiques et harmoniques, a fait évoluer la culture musicale locale de manière parfois surprenante. Par exemple, dans les années 20, des artistes martiniquais ont créé une forme locale de mazurka, une danse de salon venue de Pologne. Ils l'ont accompagné de nouveaux rythmes aux sonorités africaines et cette mazurka créole est devenue une musique incontournable des bals populaires de la Martinique. Dans les années 30 et 40, une musique encore plus ancienne, la biguine, dont les origines remontent probablement à la période de l'esclavage, font danser les salons parisiens. La biguine est une musique très dansante et entraînante et généralement accompagnée d'un orchestre de cuivre, de bois et de percussions. On y trouve aussi une certaine proximité avec la salsa cubaine, mais surtout, cette musique est considérée comme l'un des ancêtres ayant le plus influencé le jazz, né à la Nouvelle-Orléans entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Dans chacun des exemples donnés ici, la question du mélange des influences musicales est au centre de ces créations, et c'est exactement la même chose qui s'est passée avec le groupe Kassav. En 1979, Pierre-Édouard Décimus, une personnalité bien connue de la scène musicale antillaise, cherche à faire évoluer son style musical. Il monte un collectif d'artistes pour tenter de nouvelles expériences, avec notamment son frère Georges Décimus et Jacob Desvarieux, qui deviendront par la suite des figures centrales du groupe Kassav. Au début, Kassav n'est pas un groupe fixe. Il change régulièrement de nom et voit différents artistes aller et venir. En effet, aux Antilles, bien que la musique soit un élément extrêmement important dans la vie culturelle, elle ne permettait presque jamais de gagner sa vie et il était donc difficile pour les musiciens de se dédier à 100% à cette activité. Mais au fil des essais et des expériences, le groupe Kassav parvient finalement à une véritable révolution. Un tout nouveau style musical, joyeux et festif, le zouk. mélange de musique africaine, des musiques traditionnelles antillaises et des technologies de musique électronique du début des années 80, le zouk est une musique qui fait fureur dans le monde entier. Elle trouve notamment son dynamisme dans l'énergie des musiques de carnaval dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 7 de ce podcast. Kassav est finalement parvenu à révolutionner la musique antillaise. Au sommet de la gloire, le groupe est désormais composé de 7 artistes. Pierre-Édouard Décimus, son frère Georges Décimus, Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Nemrot et Patrick Saint-Éloi. Leurs chansons, chantées en créole, plaisent non seulement aux Antilles, mais aussi sur le territoire européen de la France et s'exportent même à l'international. Le groupe enchaîne les concerts et enregistre 16 albums studio qui se commercialisent dans le monde entier. Les membres de Kassav sont même sollicités par la réalisatrice Ozan Palsy, qui en fait les stars de son film Siméon, un conte musical créé pour rendre hommage à la longue histoire de la musique antillaise. Ce groupe devient alors un symbole ultime de fierté pour les deux petites îles caribéennes que sont la Guadeloupe et la Martinique, et le genre qu'ils ont créé a inspiré de nombreux artistes qui ont décliné leur style sous de nouvelles formes. Vous connaissez maintenant l'histoire du groupe Kassav, et après toutes ces aventures, vous comprenez certainement mieux pourquoi Cyril pense que l'Antillais est stigmatisé par le zouk. Donc tout le monde pense que l'Antillais ou le Martiniquais, Guadeloupéen, ne sait faire que du zouk, alors que ce n'est pas vrai. Kassav a fait exploser les frontières de la musique antillaise et populariser un nouveau style musical. Mais le succès a été tel qu'il est peut-être un peu plus difficile pour les nouveaux styles de s'exporter à la même échelle. Si vous souhaitez découvrir la musique de Kassav, je vous invite à cliquer sur le lien vers ma liste Spotify des musiques créoles que vous trouverez en description de cet épisode. Et ce qui serait amusant, ce serait que vous écoutiez attentivement les paroles en créole pour voir si, avec votre connaissance du français, vous pouvez reconnaître quelques mots ou quelques phrases. Et avant de terminer cette explication, j'aimerais rendre un hommage spécial à Jacob Desvarieux, l'un des membres fondateurs du groupe Kassav, qui nous a quittés en 2021 des suites d'une infection au Covid. Nous en avons maintenant terminé avec cette petite parenthèse culturelle et nous allons maintenant passer à l'expression d'aujourd'hui.
Après, il y a les plus connus jusqu'à maintenant, je pense que c'est Kassav.
Mm-hmm. Ils sont vraiment mondialement connus, tu penses?
Ah oui, mondialement connus parce que c'est eux qui ont créé le zouk, ils ont fait des concerts en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, enfin, aux États-Unis, au Canada, partout. Mais le problème, c'est que vraiment, l'Antillais, il est stigmatisé par le zouk. Donc tout le monde pense que l'Antillais ou le Martiniquais guadeloupéen, il sait faire que du zouk, alors que c'est pas vrai.
Deuxièmement, l'expression aguerri. Écoutez cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
Et ce genre de musique s'exporte pas assez à mon goût, parce que je sais pas, c'est parce que les radios ne voudront pas passer ce genre de musique hors Martinique, en métropole, etc., de peur de se confronter au public européen, de peur de se confronter aux artistes aussi internationaux qui font vraiment un type de musique vraiment très généraliste, R&B, pop, etc., qui plaît déjà à un public vraiment très aguerri. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ça s'exporte pas malheureusement assez.
De peur de se confronter aux artistes aussi internationaux qui font vraiment un type de musique très généraliste, R&B, hip-hop, etc., qui plaît déjà à un public vraiment très aguerri. Ici, Cyril nous explique qu'une des raisons pour lesquelles la musique antillaise ne s'exporte pas est probablement la forte concurrence des autres styles extrêmement populaires qui ont déjà trouvé leur public dans le monde entier. En effet, certains types de musique comme la pop, la house, le jazz, le R&B sont sur le marché de la musique depuis très longtemps et sont, de plus, accompagnés d'une forte stratégie marketing de la part des maisons de production qui accompagnent les artistes. Ainsi, il est beaucoup plus difficile pour les styles musicaux secondaires de toucher le public de la même manière. Ici, Cyril parle de ce public de fans en utilisant l'adjectif « aguerri ». Aguerri est un mot dérivé du mot « guerre ». Une personne aguerrie est donc une personne habituée à faire la guerre ou habituée au danger de la guerre. Mais on peut aussi utiliser cet adjectif comme une image pour décrire une personne qui est véritablement experte dans son domaine ou qui est fortement imprégnée d'une idéologie spécifique. Lorsque Cyril parle d'un public aguerri, il parle en fait d'un public dont les goûts musicaux sont déjà fortement ancrés et dont il est difficile de changer les habitudes. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser l'expression « aguerri ». Imaginez que vous avez un problème légal à gérer dans votre entreprise. Vous recommandez une personne qui pourrait apporter une solution et votre patron vous demande « Est-ce que vous êtes sûr que cette personne soit celle qu'il nous faut pour cette situation ?» Vous pouvez lui répondre « Bien sûr, c'est une avocate aguerrie. Elle saura trouver la solution la plus adaptée. » Ou encore, si vous hésitez à vous inscrire auprès d'un club de sport pour apprendre à faire du surf, le ou la responsable des inscriptions pourra vous rassurer en vous disant « Ne vous inquiétez pas, le professeur est un surfeur aguerri qui saura garantir votre sécurité. »
Et ce genre de musique s'exporte pas assez à mon goût, parce que, je sais pas, c'est parce que les radios ne voudront pas passer ce genre de musique hors Martinique, en métropole, etc., de peur de se confronter au public européen, de peur de se confronter aux artistes aussi internationaux qui font vraiment un type de musique vraiment très généraliste, R&B, pop, etc., qui plaît déjà à un public vraiment très aguerri. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que ça s'exporte pas malheureusement assez.
Nous en avons maintenant terminé avec l'expression « aguerri » et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcer le verbe « avoir » à l'oral. « Avoir » est un verbe très fréquent en français, mais qui a souvent une prononciation très différente de la manière dont il est normalement écrit. Écoutez par exemple l'extrait suivant et concentrez-vous sur la manière dont Cyril prononce le verbe « avoir » à l'imparfait, c'est-à-dire « avait ».
Exactement, et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique.
Vous avez entendu ? Dans cet exemple, le « v » du mot « avait » a complètement disparu et on n'entend plus que « ae ». Ae.
Exactement, et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique.
Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Et c'est aussi beaucoup. Et c'est aussi beaucoup les gens qui naient. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique. Et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique.
Exactement, et c'est aussi beaucoup les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui s'exprimaient à travers la musique.
Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlang.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 23 du podcast d'Expatlang Understand Native French. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce week-end, j'ai bien envie d'aller bouger mes hanches dans un club de musique antillaise. Mais nos aventures musicales dans les Caraïbes ne sont pas encore terminées. On retrouvera Cyril dans le prochain épisode pour qu'il nous fasse découvrir d'autres styles musicaux qu'il aime. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify, parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un message vocal que vous trouverez le lien en description de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis.